Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie toujours du célèbre, du fameux Tommy.
Hello.
Et mais également de Sébastien, alias Nate Saves. Salut.
Salut.
Un immense blogueur basé sur Paris qui gère des millions de vues.
Exactement.
Jour par jour. On va parler aujourd'hui principalement de jeux vidéo. Il y aura un petit manga à la fin. Alors, on va parler de A Plague Tale, World War Z et No Man's Sky. Oui. No Man's Sky. je sais pas comment c'est arrivé là, mais on va parler de No Man's Sky.
Bah justement, on est heureux, on est ému au blog d'avoir le seul joueur en France avec nous ce soir à ce jeu-là.
Bonsoir, c'est moi. Est-ce qu'on peut modifier ma voix, s'il vous plaît, pour pas commenter?
Je regarde la note. Salut, moi c'est Ned Sabes.
on va commencer par A Plague Tale, donc un jeu français réalisé à Bordeaux. Édité par Focus Home, donc 100% français, c'est quand même très très sympa. J'ai eu la chance de recevoir le press kit, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre moi, mais Stomy a passé déjà de nombreuses heures dessus. Qu'est-ce que t'en penses sans dévoiler vraiment trop le scénario, sans spoil comme d'habitude?
Qu'est-ce qui se passe à la fin?
Bah, en fait, la fille elle meurt et le petit il domine le monde.
Ah, très bien,
c'est Game of Thrones quoi.
C'est ça. Bah, on n'en est pas loin avec le début du jeu, mais bon, concrètement, c'est une claque ce jeu. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est inattendu. Je m'attendais à un RPG parce que j'avais regardé les bandes annonces comme ça. Je m'étais planché dessus, parce que je pensais que Gohan t'allait le faire. Et en fait, comme il a énormément de temps à tuer, il m'a demandé de le faire. Non, il m'a surtout fait le cadeau de ce jeu-là parce que c'est vraiment un cadeau ce jeu. C'est Cocorico en plus, donc c'est que du bonheur. C'est une histoire, c'est prenant, c'est un scénario, c'est super bien écrit. Les personnages sont attachant, donc c'est une petite fille, une fille 12-13 ans avec son petit frère pendant la fameuse peste noire en France, et le scénario il est au-delà de ça avec l'inquisition, enfin c'est, je sais pas trop comment en parler sans trop spoiler, le divulgachier le jeu, pour le dire à la française, c'est une claque. J'y ai joué encore hier jusqu'à minuit, et je suis, je pense, qu'à la moitié du jeu. Je suis au chapitre 8, et je crois qu'il y en a 16, si j'ai regardé bien, 17. J'ai regardé avec les trophées cachés sur le PSN, et j'ai essayé de voir combien il y en avait, donc ouais, c'est 16 ou 17, donc voilà, 17, tu confirmes, Seb.
Ouais.
Et moi, c'est graphiquement, c'est super beau. On est très dirigé. Attention, c'est un jeu où on est très dirigé. C'est beaucoup de réflexion. Comment passer les épreuves, comment éviter les ennemis. Il n'y a pas 10 000 façons de le faire. Le jeu attend qu'on le fasse d'une certaine façon. Mais il faut réfléchir. Et le jeu tient surtout dans son scénario et dans sa palette graphique qui est splendide. Il y a des photos dans le jeu qui sont magnifiques. C'est puis la sœur et le petit frère qui se retrouvent abandonnés, enfin orphelins plutôt. Dès le début du jeu, c'est prenant. Il rencontre plein d'amis ou d'ennemis sur la route, et on n'a pas envie de les quitter. On a envie de les suivre dans l'aventure et de continuer sans arrêt, quoi. Le seul spoil que je peux dire, c'est en 5 minutes de jeu, les 5 premières minutes, Amicia, donc l'héroïne avec son petit frère, elle perd son chien, son père et sa mère. Voilà. En 5 minutes,
c'est un jeu très joyeux, du coup.
Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pas du tout joyeux. Elle m'a fait penser un peu à Tomb Raider quand la première fois on tue quelqu'un. Je sais pas si Sébastien, t'as vu quand avec la le premier meurtre qu'elle fait, on voit la petite comment elle réagit, ça la prend, et ça m'a fait penser au premier Tomb Raider, le reboot, quand elle tue le premier ennemi.
C'est vrai.
J'ai trouvé ça un petit clin d'œil. Et franchement, Focus là-dessus, chapeau bas quoi. Et vu le titre, avec Plague Tale Innocence, j'arrive pas à la fin, mais j'espère qu'il y aura d'autres chapitres derrière.
Oui, il y aura bien d'autres chapitres. Du coup, peut-être préciser quand même que c'est fait par Asobo Studio. C'est le studio de développement qui est donc à Bordeaux et qui a travaillé sur ce jeu.
Et toi Sébastien, t'as eu le temps d'y jouer ou...
Alors oui, évidemment. Bah, du coup, pour être totalement transparent, donc moi je travaille chez Focus Home Interactive. Du coup,
oui. Ah, c'est vrai. Il faut que je te demande mon adresse.
Du coup, forcément, ce que je vais dire, évidemment, enfin, ça prend en compte dans ce que je vais dire.
C'est un gros mytho.
Exactement. Donc, oui, j'ai fait le jeu, un petit peu avant sa sortie, évidemment.
Inadmissible.
Je te la raconte comme jamais, j'ai halluciné.
Bah, faut bien profiter, quoi. Donc c'est effectivement c'est un jeu où les développeurs de chez Asobo ont beaucoup travaillé sur la narration. C'est vrai que c'est l'histoire de Amicia et Hugo, qui sont une famille noble, la famille des deux runes, qui est donc pourchassée par l'Inquisition et ils vont devoir un petit peu leur échapper. Et un truc auquel tu n'as peut-être pas parlé, Stomy, parce que c'est tellement évident que t'as forcément oublié, mais il y a des rats dans le jeu.
Ah oui, ça, c'est l'horreur.
Les races, c'est la mécanique, l'une des mécaniques principales du jeu, en tout cas celle qui est un peu au centre de l'attention, c'est que il y a effectivement la peste en France dans les années 1300 et quelques, je crois, que se passe le jeu, et il y a des rats qui, eux, ont peur de la lumière, et du coup, on va devoir jouer avec cette lumière pour éloigner les rats, ou au contraire les attirer dans un endroit particulier pour se débarrasser des ennemis.
Justement, en parlant des rats et d'utiliser la lumière pour qu'ils s'en aillent, parce que j'ai le petit détail qui tue, il y a certains jeux où tu vas devoir, par la lumière, faire évacuer des ennemis, ils vont disparaître. Tandis que là, si tu regardes bien les rats, ils vont s'en aller par des trous. Ils ne disparaissent pas. Ils vont tomber dans un trou, dans une fosse ou quelque chose, ou alors ils vont aller dans une autre pièce. Et c'est vraiment bien fait, le petit souci du détail, mais qui a son importance.
Effectivement, il y a eu un travail sur le moteur du jeu pour justement travailler sur ces rats qui ont un peu limite leur personnalité individuelle, mais qui travaillent en groupe. Et c'est ça, comme tu disais, Stomy, ils ne disparaissent pas. Alors, il y a quelques magies avec ta fronde que tu vas pouvoir... Enfin, pas magie. Quelques attaques avec ta fronde qui leur permettent de les faire disparaître, de les détruire, en fait. Mais voilà, sinon, le but, effectivement, c'est de les passer d'un endroit à un autre pour pouvoir, par exemple, passer devant une porte ou diriger les rats vers un ennemi pour le tuer. Et ça, c'est aussi un point essentiel du gameplay. Et donc oui, la narration, c'est le centre du jeu, c'est vraiment un pur jeu d'aventure narratif où on accompagne Amicia qui va du coup grandir. Comme tu disais, au début, elle tue son premier ennemi, elle n'est pas du tout bien, et effectivement, elle va devoir s'endurcir parce qu'elle se prend en pleine face la réalité qui est celle du monde dans lequel elle évolue, parce qu'elle part d'un monde limite doré, où elle était chez les deux runes, donc sa famille qui était une noble, et elle va devoir aller dans la France de l'Inquisition avec toutes les difficultés et toutes les misères que ça peut aussi apporter, et elle n'était pas préparée du tout, évidemment. Donc c'est ça, c'est vraiment tout est le centre, c'est la narration, clairement.
Ce qui est bien, c'est que Hugo, donc le petit frère qui lui a une maladie, ou une pseudo-maladie pour pas trop dévoiler, lui n'est jamais sorti, il est toujours resté enfermé avec sa maman qui essayait de le soigner avec un médecin, on va dire comme ça. Il couvre lui complètement le monde, et il s'émerveille d'un moulin, il va s'émerveiller de tout, et il va toujours être en colère contre sa sœur qui devient adulte quand elle va tuer un cochon, quand elle va tuer un ennemi, il va être complètement déboussolé, et il va essayer essaye de ramener sa sœur vers le côté jeunesse, plutôt d'essayer qu'elle grandisse trop, et elle va essayer elle s'accroche à lui, justement. Il y a un lien entre les deux qui se crée parce qu'ils se connaissent pas trop au début du jeu, parce qu'elle avait pas le droit de le voir, son frère, et on voit l'amour qui se lie entre les deux protagonistes, et franchement c'est un mariage qui se passe mais à merveille, quoi.
Ouais, je pense qu'on peut pas ignorer un peu une certaine, pas ressemblance, mais en tout cas un clin d'œil à ce qui se passe dans The Last of Us avec Joël et Ellie, qui au début ne s'aiment pas vraiment, en tout cas Joël n'aime pas Ellie, et au fur et à mesure ce lien se renforce. Là c'est pareil, Hugo qui est très jeune, comme tu dis, je crois qu'il a 5 ans dans le jeu.
C'est ça, ouais, 5 ou 6 ans.
Et il est très jeune, il a jamais connu le monde extérieur, donc il s'étonne de tout ce qu'il voit. Et lui, il a pas la même vision que sa sœur est beaucoup plus mature pour le coup, et elle doit le protéger, et lui forcément il comprend pas toutes les actions que va prendre sa sœur. Et voilà, on suit cette aventure qui est vraiment évidemment, voilà, je travaille chez Focus, mais voilà, c'est vraiment passionnant. J'ai vraiment adoré le faire.
c'est comme la mort, l'assassinat des parents. Elle lui cache au début.
Ouais.
Elle va lui révéler d'une certaine façon que je laisse les joueurs découvrir. Voilà. Et c'est vraiment la réalité des choses. C'est vraiment comme ça quelque part ça se passe. Quand on est un grand frère, une grande sœur, on va vouloir protéger son petit frère ou sa petite sœur. Et à un moment donné, on va devoir révéler des choses et on le prend en pleine face. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Alors je caresse pas Sébastien parce qu'il travaille chez Focus, mais le jeu est. Ouais, à ce qui autant que toi, Gohan. Mais enfin voilà, ce jeu pour moi c'est le gros coup de cœur de 2019 pour le moment et j'ai pas envie de le finir quoi. C'est mais clairement c'est le genre de jeu quand tu finis tu dis merde, je vais jouer à quoi maintenant quoi. Je passe à quoi. C'est j'ai eu la sensation avec Witcher 3 à l'époque, j'avais attaqué Batman derrière, bah Batman j'ai eu du mal à le faire quoi.
Ouais, ah, c'est pareil, hein.
Et là, je sens que ce jeu-là, quand je vais le finir, je vais. Bah, ouais, bah non, j'ai pas envie.
Ouais, tu seras pas bien, je pense.
Bah, je viendrai pleurer chez toi.
Exactement, pas de soucis.
Je veux la suite avant les autres.
Voilà, c'est.
Oui, j'imagine. Je pense.
On va enchaîner avec un autre jeu, un autre délire complètement, deux salles, deux ambiances. On va passer à World War Z, qui est donc tiré du film que vous avez peut-être déjà vu. Moi, en tout cas, je l'ai vu et je trouvais ça naze. C'est mec en forêt. Non, ça va, c'était pas si dégueulasse, mais c'était dans la grande mode des films avec les zombies, et d'ailleurs, c'est une mode qui perdure un peu. Encore un jeu d'ailleurs qui est proposé par Focus, mais c'est pas possible, c'est une soirée Focus ou quoi. Dans quel monde on vit.
T'as bien fait de m'inviter, dis donc.
J'ai bien fait de t'inviter.
À pas confondre avec Focus, hein, attention.
Oui, c'est pas la même chose, c'est pas la même boîte. Ils font pas les mêmes jeux. Donc World War Z, c'est un jeu de survie croisé FPS qu'on a eu le plaisir de jouer. Avec Stomy.
C'est pas un FPS, hein, c'est un TPS.
Ouais, TPS, ouais, c'est vrai. Ouais.
Donc, tu sais que
je ne réalise pas, moi, j'improvise, 100% d'improvisation.
Ouais, c'est pour ça que je suis là, c'est pour te. Voilà,
exactement.
C'est pour la qualité.
C'est pour ça que j'invite des gens, si j'étais tout seul, ça irait plus vite. Et moi, j'ai trouvé ça très sympa dans l'ensemble. Alors, pour moi, il n'y a pas trop d'histoire. On enchaîne les petites missions à droite, à gauche, à travers le monde. C'est des missions qui sont plus ou moins courtes. Ça dépend aussi. Comment on les enchaîne, et ça dépend aussi avec qui on tombe, parce que des fois on tombe avec des gros noobs du net, donc c'est assez chiant, parce que c'est un jeu qui joue en coop, obligatoirement. C'est un jeu donc sur lequel on sera 4, toujours, ce sera toujours le cas. Nous, on jouait à 2 avec Tommy, avec 2 autres qu'on ne connaissait pas forcément. Mm-hmm. C'est des missions qui peuvent être parfois longues, parfois courtes, ça dépend aussi de la mission en soi, parce que je sais plus c'est laquelle qui était super courte, qui a duré 10 minutes, même pas à tout casser, et celle d'après, on a galéré comme pas possible, on a passé plus d'une heure dessus. Alors c'est un gros bordel, on fait face à des invasions de zombies, on doit relier un point A à un point B, on va pas se faire chier, hein, le scénario il tient sur ça, on relie un point A à un point B. On peut choisir une certaine classe, même si je trouve que ça n'a pas forcément une incidence énorme. Ça nous permet peut-être d'avoir des armes différentes ou des dispositions différentes, mais j'ai pas trouvé ça folichon pour autant. Comme dans tous les genres de jeux dans ce style-là, en tout cas, on va améliorer notre arme au fur et à mesure qu'on gagnera de l'XP, ce qui permettra d'avoir une arme un peu plus puissante, un peu plus, voilà, tout simplement une arme améliorée. Moi, je sais pas ce que t'en as pensé, Stomy. Moi, j'ai trouvé ça très très fun. Très très fun, surtout à plusieurs. Ça nous permet de, voilà, Stomy, comme il passe son temps à crever, je suis obligé de le réanimer. Donc, il dit où il est et je vais le réanimer. Ça nous permet de récupérer des armes à droite à gauche. Voilà, on s'entraide ensemble. Voilà, les jeux en coop, moi, c'est ce que je préfère de toute façon. Mais ce genre de jeu un peu bourrin où tu réfléchis pas, t'avances, tu tapes dans le tas et t'attends que les gens les explosent. J'aime beaucoup, beaucoup le principe. C'est quand même assez bien foutu dans l'ensemble. Alors, c'est pas forcément le plus beau jeu du monde, c'est pas forcément le jeu le plus original au monde, mais par contre, je trouve qu'il y a une chose qu'on peut pas lui retirer, c'est que le jeu reste très fluide malgré les marées humaines de zombies qui nous débarquent à la gueule, parce que vraiment, c'est vraiment des marées humaines. Hein. Il y a, je sais pas, des milliers de zombies parfois à la fois sur le
des
même
milliards.
Écran. Non, n'exagère pas. Ça, c'est le mec de Focus qui parle. Écoutez-moi plutôt. Donc, il y a des milliers de zombies qui arrivent directement sur nous, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, on est mort plus d'une fois sous les zombies avec Stomy. C'était assez marrant. On s'est dit, ah merde, ça passe pas là. Merde, j'ai plus de balles. Ça fait chier.
Réanime-moi. Je suis mort aussi.
T'es mort aussi. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Hein. on va recommencer, c'est pas grave. Mais moi, je trouve qu'on a passé des bonnes soirées. Et c'est un des rares jeux auquel je me dis, bah tiens, j'y rejouerai bien demain. Tiens. J'ai passé une soirée à refaire un peu de World War Z. Ça prouve une chose, c'est que déjà le jeu est attirant et pas trop redondant en soi. Il propose plein de niveaux de difficulté. Là, pour l'instant, je crois qu'on joue en facile en plus. Hein.
Joue
en facile ou en moyen,
en moyen.
Mais on essaiera, je pense, quand même la difficulté la plus haute ou juste un cran au-dessus. Voilà, moi je trouvais que c'est un jeu très sympa. T'en as pensé quoi de ton côté, Stomy?
Justement, on sortait de nous au blog de The Division 2, où ouais. Voilà, il y a le gros côté RPG, il y a le gros voilà, il faut du loot, faut farmer, c'est un gros jeu, c'est le must au niveau de la coop, de la coopération, c'est Division 2, c'est limite imbattable. On débarque avec World War Z et là c'est du fun.
Tout est simplifié.
On se prend pas la tête avec le côté RPG. C'est du bourrinage. On défoule, on tire, on zigouille du zombie. Et à la différence de Division 2, où effectivement, si tu abandonnes, si tu arrêtes de jouer pendant une semaine, 15 jours pour X raisons, tu vas avoir du mal à te remettre dans le jeu parce qu'il y a c'est tellement entre guillemets une usine à gaz parce que c'est tellement complet qu'il faut tout se remémorer, c'est pas forcément évident. World War Z, tu peux arrêter 2 mois, tu veux reprendre, tu peux y aller sans aucun problème quoi. Tout est simplifié, tu prends ton personnage, t'appelles ton pote ou 3 ou 4 potes, voilà, tu joues en réseau, tu fais une mission, ça te prend 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure et c'est tu défonces tout quoi. C'est la seule réflexion que tu as à faire, c'est de savoir où mettre les tourelles ou mettre des pièges pour un peu liquider les vagues de zombies qui peuvent arriver pour éviter de trop tirer dessus, pour économiser les munitions, un travail d'équipe, mais voilà, c'est léger et c'est fun. On commençait à jouer vers 10h je crois, Aurélien, et on jouait quoi 40 minutes par soir, on faisait une mission en moyenne, c'était ouais 3 quarts d'heure maximum qu'on jouait quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, on a rarement dépassé l'heure de jeu dans une seule mission, en tout cas pas à la fois. Il y a une mission qui était super courte qui m'avait marqué, sur laquelle moi je fais plein de trophées. Parce qu'elle est vraiment très très courte et il y a moyen de
choper des trophées à la con. C'était la deuxième de New York.
La deuxième du premier chapitre, je crois. Toi, Sébastien, t'as eu l'occasion d'y jouer, je suppose, quand même, un minimum, en tout cas.
Eh bah, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du
t'es
tout.
Pas non. Tiré par ce genre de jeu ou si, t'as pas si. Eu l'occasion
si,
ou...
si, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire, d'y jouer. Je connais, effectivement, peut-être qu'il y a des choses que t'as peut-être pas précisées au niveau des environnements. Tu as 4 environnements, Moscou, New York, Jérusalem et Tokyo, qui ont chacune leur propre atmosphère, mais j'ai pas pu et donc chaque ville est séparée en 4 chapitres je crois.
C'est ça.
Et non, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Il faut savoir que Focus, j'ai travaillé dessus. Alors je travaille dessus comme tous les jeux qu'on a chez Focus, mais j'ai pas pris le temps d'y jouer précisément. Par rapport à Plectel, où là vraiment j'ai
ouais, t'étais déjà au deuxième jeu de Plectel en fait.
non, peut-être pas, mais j'ai pas eu l'occasion de. Alors si, j'ai dû le faire tourner une ou deux fois pour tester quand on avait des tests à faire en grandeur nature. C'est le genre de jeu qui m'intéresse parce que j'ai pris beaucoup de plaisir sur Left 4 Dead et que c'est clairement un Left 4 Dead like, on va dire.
Ouais, bien sûr.
Il y a vraiment le même esprit. Il y a un gros travail sur les masses de zombies, comme tu dis. Je crois qu'ils appellent ça le Swarm Engine, je crois, où c'est cette capacité qu'ont les zombies à, comme les rats de Plectel, finalement, à être individuels, mais quand même à travailler en groupe. Alors, il y a différents types de zombies. Et comme dans Left 4 Dead, je crois que tu as des screamers qui vont hurler.
Ça, qui vont hurler et les attirer. Ouais.
Voilà,
t'as les très très gros ouais, qui sont un peu chauds à buter et qui essaient de te choper et te défoncer dans un coin.
Ah, c'est une technique ceux qui sont en armure de la police, c'est ça?
Ouais, enfin, oui.
Eux, apparemment, tu les tases et ça les immobilise, après tu peux les défoncer.
Ah, parce qu'il y a un taser.
Ouais, il y a un taser. Non,
on n'a pas utilisé le taser une seule fois. Nous, on préfère jeter des cailloux, c'est plus facile.
Ah, je crois qu'il faut faire des. tiré dans le dos, il est faible dans le dos.
Oui, non, mais après, quand ton arme est améliorée, tu lui mets un chargeur dans la tête et il est KO. Hein.
C'est plus ça, même pas
des fois. Il n'y a plus de stress, quoi. Et t'as un ennemi aussi qui te saute à la gorge et qui t'immobilise, qui est un peu relou celui-ci. Parce que si t'arrives pas à l'avoir en plein vol, il est casse-couille.
Et t'en as un autre aussi qui, quand tu le tues, normalement, oui, il dégage du gaz. Et
alors ouais, c'est ce son combinaison un peu genre toxique là, qui peuvent être un peu chiants aussi. Et là, j'ai vu que, d'ailleurs, une bonne chose, c'est que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, il y a des DLC qui sont annoncés, qui sont totalement gratuits.
Ouais, tout à fait.
Ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool de leur part. J'espère que ça sera régulièrement le cas, avec pourquoi pas des nouvelles missions au fur et à mesure du temps, parce que ça je pense ça nous permettra avec Stomy ou avec d'autres de d'y jouer régulièrement. Je pense que c'est quand même une bonne idée au lieu de nous foutre des DLC à 30€ à chaque fois là. ça serait bien d'offrir de temps en temps aussi un peu de contenu.
Voilà. Non, si jamais c'est gratuit, on le fera payer juste pour toi alors du coup.
Il y a pas de souci. Je prendrai ton PayPal.
Vous pouvez m'envoyer le press kit, hein, par contre.
Ah, le press kit, j'ai déjà reçu. Il est déjà à ma maison.
Le petit sac à dos, là.
C'est ça. Le salaud, jusque vous. Ok, ben voilà, on aura bien parlé de World War Z, que moi j'ai bien kiffé. Et, si vous voulez jouer d'ailleurs avec Stomy et moi sur PS4, ben, n'hésitez pas à vous manifester, c'est toujours cool. Nous, ça nous plairait.
Sur le blog, vous avez nos PSN. Voilà, vous pouvez nous faire une demande d'amis, on acceptera.
Il y a deux modes de jeu, on n'a peut-être pas dit, mais il y a le mode donc PVE, c'est comme on dit, une team de 4 contre des zombies, et il y a aussi du PVPVE, où c'est deux teams de 4 contre des zombies, et en fait tu peux te battre contre la team et en même temps te battre contre les zombies.
Encore plus de bordel, quoi.
Exactement.
Pourquoi pas Naomi ?
On va changer d'univers une fois de plus, on aura vraiment fait trois univers complètement différents, on va parler d'un jeu. On va changer de planète même, ouais, clairement. on va parler d'un jeu qui a eu son petit buzz à sa sortie, c'était quand, Jetsabes?
2016,
putain, c'est vieux. Ouais. C'était il y a 3 ans, donc No Man's Sky a débarqué un peu sur console et sur PC, ouais. Si je dis pas de bêtises. Alors, il y a eu un bon buzz au début. Puis, 2 jours après, un gros bad buzz qui a duré 6 mois. Donc, le temps que plus personne y joue. Et là, ils ont ressorti donc un gros DLC qui fait quoi exactement?
Alors, bah, du coup, on peut-être, comme tu dis, resituer un petit peu No Man's Sky. No Man's Sky, donc, c'est un jeu de Hello Games qui est donc sorti en 2016. Il a été annoncé assez, un peu en grande pompe. Il a été lancé en 2012, un an après le commencement de son développement. Il a été annoncé en 2013, pardon. C'est au Video Games Award. Et puis surtout, il a été très visible à l'E3 2014. Où il a été annoncé comme étant exclusif à la PlayStation 4 avant que Hello Games dise « Attendez, le jeu sortira aussi sur PC. » Et c'est un jeu... Donc...
Attendez, il sortira aussi sur Xbox après. Hein, oui. On a le temps. c'est en train de bégayer Hello Games.
C'est
bientôt
clair.
Sur Switch.
C'est ça.
C'est un jeu de simulation. Enfin, pas vraiment simulation. C'est un jeu d'exploration spatiale. Vous êtes une forme de vie et vous avez un vaisseau et vous devez aller explorer la galaxie dans le rôle qui vous convient le mieux. Soit vous explorez tout simplement, soit vous allez devenir mineur, soit vous allez devenir pirate, soit vous allez devenir capitaliste et devenir hyper riche pour pouvoir construire la plus belle base et avoir les plus beaux vaisseaux. C'est vraiment le mode de jeu, c'est un jeu bac à sable, de toute façon, il faut savoir. Dans No Man's Sky, qui est sorti en 2016, au début, la promesse était assez grande. Et très vite, donc, comme tu disais, les joueurs et les joueuses ont beaucoup déchanté parce que finalement, la promesse n'était pas vraiment tenue. Le jeu était assez, assez bancal. Il faut savoir que le nombre de planètes est énorme. Je crois c'est des millions, voire des...
Oui, c'est une quantité presque infinie parce qu'en fait, tu peux quasiment ne pas tomber deux fois sur la même planète. Parce qu'en fait, elle se crée quasiment en fonction d'autres. Enfin, voilà, c'est vraiment un pur hasard. C'est ça. Et donc, ça, c'était vraiment. Pour le coup, c'était incroyable. Par contre, à côté de ça, quand c'est sorti.
Bah, alors moi, il faut savoir que j'ai pas joué au moment de la sortie.
T'as bien eu de la chance, mon copain.
Bah oui.
Parce que quand c'est sorti, c'était bien dégueulasse. Il y avait des bugs à gogo. Ouais, Voltixess a joué, m'a montré des vidéos, je rigolais parce que je lui avais dit ça allait être de la merde et c'était de la merde. Parce qu'il y a eu des bugs comme jamais. Et effectivement, c'est un peu l'effet Ubisoft. Entre le trailer qui était proposé, qui était magnifique, où tu disais waouh, quel truc de fou, et la vraie vie, hein. le jeu vidéo, il y avait quand même une putain de différence. C'est-à-dire que des fois, tu tombais sur une planète, où il y avait quasiment que dalle. Il y avait trois cailloux, deux branches d'arbres, et tu disais, ok, j'ai visité cette planète, on va changer. Alors que dans le trailer, tu voyais des planètes avec des dinosaures, des trucs de ouf, des animaux, des bêtes, des trucs,
j'ai des trucs
vraiment incroyables.
Joueurs où on voyait des animaux complètement tordus avec des têtes de T-Rex et des corps de poulet ou des trucs comme ça, c'était très drôle. C'était mais à ça après ça a été corrigé donc assez tardivement, ça a été corrigé en 2018.
C'est ça. C'est ça. Avec le problème il est là, il a fallu quasiment 2 ans pour que ça soit corrigé.
Bah en fait
c'est dur de relancer une licence après ça, c'est un peu comme Anthem est mort.
Comme quasiment toutes les licences, si déjà tu galères à, enfin t'as des galères au lancement, c'est compliqué. Si en plus de ça il te faut plusieurs mois pour corriger, c'est encore plus compliqué. Mais si en plus de ça, il faut 2 ans, bordel de merde. Qui joue à No Man's Sky après, à part des fous.
À part moi.
Je ne sais pas. Citez-les-moi. Citez-moi ces gens.
En 2018, du coup, il y a Next qui est sorti. C'est la grosse mise à jour qui est censée, enfin qui a mis No Man's Sky comme il était censé être à sa sortie, d'après Murray, l'un des développeurs principaux, Sean Murray. Et moi, j'ai commencé à jouer à partir de cette extension Next. Donc du coup, j'ai évité
évité le pire.
Exactement. Et aujourd'hui, quand j'y joue, alors c'est clairement un jeu bac à sable. C'est un jeu où tu farmes, tu fais que de farmer, donc il faut vraiment aimer ça. Mais c'est vraiment sympa, c'est t'as cette impression de ne jamais avoir besoin de faire 3 fois les mêmes choses, alors que pourtant tu fais que de ça. Hein. C'est en fait c'est un peu le syndrome YouTube. Sur YouTube, tu vas sur une vidéo et une vidéo de chat et tu te retrouves après sur une vidéo sur
mais, tu te retrouves. Pour moi ça là c'est cadeau.
Et t'es à fond ce soir Gohan.
Ouais, je suis au max.
De fil en aiguille, tu te retrouves sur des vidéos qui n'ont rien à voir, genre sur comment cuire des petits pois à la casserole, tu vois. Et bah, No Man's Sky, c'est ça, c'est que tu commences en te disant, bon, allez, je vais aller farmer tel matériau, et tu te retrouves sur une planète, tu te dis, ah, mais en fait, je peux faire ci, ah, mais en fait, je vais aller faire ça, ah non, mais il faut que j'aille dans d'autres systèmes pour aller faire ci, faire ça, etc. Et en fait, tu as plein de choses à faire aujourd'hui, tu as des missions, bien évidemment, où tu pour différentes factions. Tu as la possibilité d'aller farmer des ressources pour te faire beaucoup de pognon. Et puis tu as aussi l'objectif principal du jeu qui est quand même d'aller explorer.
Et le pognon se te sert à acheter uniquement des vaisseaux de mémoire, non ?
Des vaisseaux, tu peux l'utiliser sur les terminaux pour aller acheter des ressources, tu peux aller acheter des améliorations pour ton vaisseau, pour ton exocombinaison, pour ton multi-outil. Mais essentiellement, c'est fait, oui, c'est pour frimer avec ton gros vaisseau énorme qui coûte quand même très cher.
Mais ce qui est bien, Sébastien, c'est que. Comme il n'y a plus personne sur le jeu, toi, t'as tous les items, tu peux farmer tranquillement, personne ne te les pique, quoi.
C'est un jeu qui ne se joue pas en réseau. T'as ton propre univers. C'est-à-dire que si tu vas sur telle planète, le mec va aussi sur telle planète, ça ne sera pas la même chose de mémoire, c'est ça ?
Non, vraiment, sur l'extension Next, ça a changé, justement, il y a ce multijoueur où les gens peuvent, voilà, enfin c'est du multijoueur entre guillemets, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Déjà il faut savoir qu'il y a tellement de planètes que t'es quasiment
c'est normal, t'étais solo
effectivement, chance de rencontrer aléatoirement quelqu'un. Moi la seule fois où j'ai rencontré quelqu'un, c'est dans le mode créatif, parce qu'il y a un mode créatif et en fait les gens viennent visiter ta base que t'es en train de créer, parce que là aussi des atouts majeurs de jeu, c'est que tu peux créer des bases de malades et ils ont eu l'intelligence de faire un mode créatif qui fait que tu n'as pas besoin de ressources et que tu peux créer tout ce que tu veux, aussi tordu, aussi fou que
ouais,
tu veux.
Un peu à la Minecraft, quoi. La Minecraft, c'est... le mode...
Exactement. Et ça plaît beaucoup parce que au-delà de l'aspect laisser parler de ton imagination, ça permet au moins de tester les bases que tu veux faire dans le jeu en réalité et ça peut être pas mal. Et le but du jeu principal, ça reste quand même d'aller visiter le centre de la galaxie pour découvrir le mystère qu'il y a. Il y a une ambiance particulière dans le jeu, clairement. Il n'y a pas de voix. C'est que des dialogues de dialecte qui sont incompréhensibles. Tu as aussi la particularité de ne pas comprendre ce que disent les PNJ. C'est des mots qui sont codés et tu vas devoir apprendre ces mots par différentes intermédiaires, genre aller sur des planètes et utiliser des stèles d'artefacts extraterrestres qui vont t'apprendre un mot, ou alors discuter avec une entité dans une base pour aller apprendre des mots, etc. Et au fur et à mesure du jeu, tu vas enrichir ton vocabulaire et pouvoir comprendre ce que te disent les PNJ. Et cet été, ils ont annoncé, enfin pour l'été qui vient, ils ont annoncé une grosse nouvelle mise à jour qui s'appellera Beyond, je crois, qui est censée ajouter un multiplayer beaucoup plus élaboré où là tu pourrais faire de la coop, parce que si je me trompe pas, encore une fois, j'ai pas eu l'occasion de faire du multi sur No Man's Sky actuellement. Tu peux pas vraiment faire de coop. C'est que tu vas voir les gens qui vont te rejoindre dans ta partie, mais tu peux pas vraiment partager un inventaire, partager une base, etc. Tu cohabites avec.
Vous jouez ensemble, mais chacun a son truc, quoi.
Exactement. Ouais. Donc là, la mise à jour de cet été devrait, j'espère pour eux, relancer l'intérêt pour la franchise. Et comme tu disais, comme vous disiez même, une fois qu'un jeu sort qui sort mal entre guillemets, c'est très difficile de remonter la barre. Et ils ont la mérite au moins de pas
avoir lâché.
Voilà, ils lâchent pas l'affaire, ils continuent. Quand tu vas sur le site, ils annoncent des updates régulièrement. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir un jeu vraiment intéressant pour celles et ceux qui aiment les jeux bac à sable.
Ok, juste une petite question, mais qui me paraît logique. Je suppose que les mises à jour étaient gratuites. Enfin, son était gratuite.
Oh. Oui. Oui,
non, sinon... parce que y a quand même parfois des éditeurs et des développeurs qui arrivent à proposer des mises à jour payantes pour un jeu qui a pas marché, quoi. Donc,
tout est gratuit.
Des fois, il n'y a pas trop de logique. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, tu as raison de le dire, je pense que le jeu peut être très intéressant maintenant.
Aujourd'hui, ouais, il mérite.
Mais oui, c'est quand même dommage pour un jeu qui est sorti il y a 3 ans, quoi.
Ouais, il est mature, quoi.
Il est bien mature, là. Il est bien, bien mature. Quand il y a 4 cm de poussière sur ta pochette du jeu, il est bien mature. Hein, il est bien, bien mature.
Pardon, c'est cadeau, c'est pour moi.
Faut pas l'écouter celui-là. On va terminer le podcast avec un peu de manga parce que les mangas c'est la vie, hein, faut être réaliste. On va parler de City Hunter Rebirth.
Rebirth
avec l'accent franco-américain. Que Netsabes a lu, que j'ai lu aussi de mon côté. Alors pour le moment, il y a 2 tomes de disponibles. Alors vous connaissez peut-être la licence City Hunter, c'est la licence en France Nicky Larson. Il y a eu l'animé, il y a même un OAV qui est prévu là dans les prochains mois au cinéma. Ouais, c'est ça. Dans un mois. Au cinéma en avant-première à droite à gauche, qui sortira peut-être un peu comme le film My Hero Academia était sorti. Pour des one shot en salle, je pense pas qu'il y aura un gros des grosses mises en avant comme c'était le cas pour le film Dragon Ball Super Broly. Moi c'est une licence qui je suis passé à côté de l'animé, je suis passé à côté du manga original.
Oui.
Pourquoi pas me remettre dedans parce que c'est l'occasion. Un peu comme Slam Dunk. Slam Dunk ressort une version un peu condensée, un peu kai, on va dire ça comme ça, du manga. Et je me suis dit, là c'est le moment de la découvrir. Toi c'est pareil, je crois que t'as vu l'animé, mais t'avais jamais lu le manga.
Effectivement, moi j'ai pour objectif d'acheter tous les mangas originaux, mais sauf qu'ils coûtent encore une blinde chez Panini Comics, soit c'est 10 balles l'exemplaire, et surtout le numéro 1 est assez difficile à trouver, donc plus cher. Okay.
Mais c'est quand même mon objectif. C'est tendu, quoi.
Ouais, donc c'est compliqué apparemment, mais c'est mon objectif. Et effectivement, City Hunter Rebirth, moi j'ai vu l'animé. Je crois que j'ai vu quasiment tous les épisodes, j'ai l'intégrale en DVD chez moi. C'est un animé que j'adorais parce que je regardais ça avec mon père quand j'étais plus jeune, mon père adore, ma mère aussi. Donc tu vois, c'est un peu une transmission familiale. C'est un vieux, vieux manga, ça date de 89, je crois, ou 85 ?
85.
85, ouais. 86, ouais, je suis sur un petit site qui s'appelle Wikipédia, qui a de l'avenir.
Pas sûr.
C'est... ouais, oui, c'est vrai quand même. Bon, bref, c'est sorti en 86 et l'animé a la particularité d'avoir beaucoup fonctionné en France parce qu'il était sorti à l'époque du Club Dorothée. Les trentenaires savent de quoi je parle. Les quarantenaires aussi.
Le monsieur à côté, il est vieux, faut parler.
Ouais, mais moi je m'approche tout doucement aussi. Mais les doublages français étaient très très drôles. Pour les ennemis dans l'animé, c'était des voix totalement ridicules et ça a fait son charme. Et la francisation aussi des noms était aussi de la partie, et aussi la censure. Il faut savoir que le manga a la réputation, comme je l'ai pas vu, a la réputation d'être beaucoup plus sombre déjà et beaucoup plus sexuel, voire parfois sexiste, que l'animé. L'animé est plutôt édulcoré, surtout en France. Dans l'animé que j'ai en DVD, il est non censuré, il y a des scènes qui sont effectivement un petit peu olé olé, hein. Mais quand je vois les deux premiers tomes de City Hunter Rebirth, j'ai l'impression que le manga original était encore pire que cette version non censurée de l'animé. Donc oui, toi t'as lu que le premier tome, je crois, Gohan.
Moi, j'ai lu que le premier tome, ouais. J'ai lu que le premier tome.
Le deuxième est sorti cette semaine, la semaine dernière.
Ouais, c'est sorti assez récemment.
Ouais.
Moi, j'étais un peu mitigé parce qu'en fait, j'ai trouvé le scénario ni trop original ni pas assez. Alors, on va essayer de le raconter en quelques secondes. En gros, on découvre Kaori, qui est une fan inconditionnelle de City Hunter, donc qui connaît parfaitement la licence. C'est assez bizarre d'ailleurs d'avoir ce genre de scénario dans lequel où on connaît un manga et en fait on parle de ce manga. Bref,
ouais.
Elle va être propulsée.
En fait, elle a un accident.
Elle ouais,
a
elle un accident. Accident. C'est vraiment un scénario un peu basique, un peu bateau, ce truc-là où t'as un accident et t'es propulsé soit quelques années avant ou t'es propulsé dans un univers parallèle. C'était d'ailleurs le même style que pour le dernier manga Dragon Ball où on vit l'incroyable vie d'Yamcha, un truc comme ça. C'est exactement le même principe. Donc en fait, elle se retrouve dans l'univers de City Hunter.
On t'entend plus.
Ah, tu m'entends
si,
plus pardon.
Si, ouais, si, ça, ah, je, moi, ça a coupé, je sais pas si.
Bon.
Donc, vas-y, répète.
Moi aussi, mais excuse-le, il est chaud orange.
Alors, je disais en gros que on se retrouve donc dans les années 80, en plein Shinjuku, là où se déroule le manga City Hunter. Elle va donc découvrir, et voilà, par grande surprise, elle va découvrir qu'elle est en plein dans l'animé, enfin en plein dans l'univers du manga, et elle va découvrir du coup Rio et toute la vie qui va autour. Et en fait, elle va revivre un peu les aventures de manière assez condensée. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus condensé que dans le manga. Et on voit qu'elle connaît effectivement ce qui va se passer quasiment page après page. Et elle essaye d'influencer, mais pas trop, pour pas trop changer le déroulement de l'histoire. Elle, pour l'instant, elle se demande pas vraiment pourquoi elle est là et si c'est un rêve ou une réalité. Mmh. Ouais, je suis mitigé. J'aime beaucoup l'humour tout autour de ça. J'aime beaucoup l'humour de Rio, principalement.
Ouais.
Le dessin est vraiment très sympa et très agréable aussi. Je pense qu'il doit être encore plus intéressant de le lire quand on connaît, et qu'on a déjà lu le manga, parce que ça doit être bourré de références. Mais moi, je voyais plutôt ce manga comme l'occasion de découvrir la licence ou de redécouvrir la licence. Là, je trouve que c'est un peu mitigé. Je trouve que le scénario est peut-être un poil facile. Et en fait, j'aurais aimé une autre approche. J'aurais aimé une autre sorte de spin-off, quoi, quelque chose de plus original, de différent. Je sais pas, je suis un peu mitigé au final.
Ouais, moi j'ai plutôt tu vois, ce scénario est clairement très très simple, pas vraiment élaboré. Le fait qu'elle est propulsée dans ce monde dont elle rêve. Il faut savoir que Kaori, elle est fan hein, de City Hunter, et du coup elle se retrouve un petit peu dans l'univers de City Hunter, et elle est un peu comme dans un rêve. Et moi je me dis ça doit être assez sympa, tu vois, pour un fan ou une fan, de se retrouver dans le monde, même aussi imaginaire soit-il, de son héros préféré. Je sais plus ce que je voulais dire, mais non, j'ai bugué. moi je trouve que la manière de, comme tu dis, en fait, si t'as pas lu l'original, je me demande si tu passes pas à côté de références.
C'est la question que je me posais vraiment, quoi.
Par contre, je pense que ça se tiens tout seul, j'en suis au deuxième tome, et alors c'est bien, tu vois, elle le dit, tu vois, ah ça c'est dans tel épisode, ceci, il va se passer ci, il va se passer ça, donc en fait, c'est une histoire qui se tient toute seule, je pense qu'on peut clairement, la preuve c'est que je le lis, on peut clairement le lire sans avoir besoin de connaître l'original. Je pense qu'il faut au moins connaître l'univers, savoir qui est Ryosabe, qui est Kaori, qu'est-ce que le Katsai, qui est donc Mammouth Umibozu, je crois, ou Misobu en Jap, je sais plus, pour au moins connaître les personnages principaux, pour ne pas être perdu. Mais j'ai bien aimé cette approche, même si moi je vois la fin venir comme une le nez au milieu de la figure. Je pense qu'en fait elle est dans le coma, ou elle est dans les vapes suite à son accident, et que du coup elle est elle imagine tout ça, et c'est sûr qu'elle imagine, mais je pense que c'est lié à ça. Je pense qu'à la fin, elle va se réveiller et hop là, voilà, c'est réglé. Mais moi j'aime bien. Alors il faut savoir que c'est pas dessiné par Tsukasa Ojo, je crois, qui est l'auteur original. Et c'est supervisé apparemment par Tsukasa Ojo.
Ouais, ça c'est la facilité qu'on dit quand ça a été validé.
Ouais, je pense que Tsukasa, il a dû dire.
Il n'y a pas tout ce qui tourne autour de Dragon Ball où il dit oui, ok, c'est
bon. Ouais, tant qu'on lui donne l'argent. Et c'est aux éditions Kiun, du coup.
Exactement. Alors, à savoir qu'il y a pour l'instant donc deux tomes en France, trois tomes au Japon. On ne connaît pas forcément la longueur de ce manga, mais je pense comme toi qu'il va être assez court parce que j'ai l'impression quand même qu'on avance très très vite dans l'histoire de City Hunter. Tu vois, quand elle parle des épisodes, quand elle parle de tout ça, j'ai vraiment l'impression moi qu'on avance assez rapidement.
Il y a 35 volumes de l'original déjà.
Je pense que ça va tenir en 7 tomes, quoi. 7, 10 tomes maximum.
Ah ouais, tu penses ?
Ouais, je pense que ça va tenir en 7, 10 tomes parce que du coup, c'est quand même pas assez innovant pour faire tenir ça en 20 tomes, quoi, tu vois. Vu que tu répètes un peu l'histoire originale, tu essaies d'apporter quand même l'humour et le petit côté sympathique de
Kao aussi.
Ouais,
ah pardon, je croyais que c'était encore sur Ryu.
Ryu j'adore, mais Ryu de toute façon quoi qu'il arrive, il est très cool. Donc en fait, que ça soit dans le manga original ou dans celui-ci, je pense qu'on va clairement accrocher à ce personnage. Par contre, Kaori, donc vraiment la fan, parce qu'elle s'appelle aussi Kaori, l'autre ouais. Donc c'est ça qui est un peu rigolo.
D'ailleurs, la Kaori originale, enfin de la Kaori de Rebirth, se renomme Saori dans le manga pour pas éveiller les soupçons. Et ça. Peut-être aussi pour faciliter la compréhension.
Oui, je pense aussi, c'est quand même plus facile, clairement. Mais donc voilà, c'est pas mauvais. C'est voilà, je pense qu'il y a des mangas clairement plus mauvais. Mais en fait, le petit reproche, c'est que j'aurais aimé découvrir la licence autrement que par cette façon peu originale de la remettre en avant. À côté de ça, le coup de crayon de
Sakura Nishiki, si
c'est
je
ça,
me trompe pas.
Sakura Nishiki, le coup de crayon est très très bon. À côté de ça, franchement, c'est très très sympa. Visuellement, c'est très beau. Il y a des détails à crever.
Bien découpé.
C'est bien découpé. Franchement, il y a pas grand chose à dire de ce côté-là. J'ai passé quand même. C'est une belle lecture. Hein. Je vais clairement lire le tome 2 dans les prochains jours. Et je pense que je continuerai parce que j'aime pas rester sur une mauvaise impression avec un premier tome.
Mais j'imagine que les premiers originaux sont aussi peut-être difficiles à lire et que après l'histoire se déroule. Moi là, j'ai vu le tome 2, j'ai vraiment hâte de voir la suite.
Vraiment mettre dans le tome 2 pour voir un peu si je continue l'aventure ou pas. Mais je pense que oui, je continuerai parce que j'ai vraiment envie de découvrir aussi cette aventure de City Hunter que j'ai loupé du coup. C'est cool. Merci pour ton avis. Monsieur Sébastien.
Avec plaisir.
Merci à Stomy aussi pour sa présence.
Oui, parce que bon, le manga, je ne l'ai pas lu, donc moi, je connais que l'animé de Club Dorothée.
T'aimais bien l'animé ?
Ah ouais, l'animé, mais la version non censurée, bien sûr.
Ouais, ouais.
Alors, l'animé, ouais, était fun, c'était un peu rajouté, mais c'était typiquement japonais, donc mais pour l'époque, c'était top, ouais. Quand j'étais gamin, j'avais quoi, les 10-12 ans.
Puis l'OST aussi, exceptionnel.
Ah oui, alors ça, par contre, ça c'était la force du manga. Ouais. Enfin, d'anime.
Et c'était quand même une époque où les gens ne se moquaient pas de la VF. Parce que là, maintenant, les gens, dès que tu parles de VF, c'est automatiquement c'est de la merde. Et compagnie. Alors que moi, par exemple, Dragon Ball, j'ai vraiment du mal à le regarder autrement qu'en VF. Quoi.
Ah, c'est...
Alors je te parle de Dragon Ball. Hein. Dragon Ball et Dragon Ball Z, vraiment les anciens épisodes. Quand je les vois en sous-titré, ça me fait pas la même chose. Voilà, j'ai connu ça pareil, Club Dorothée, etc. Ah oui, déjà tu profites moins de l'image, ça c'est sûr. Mais je me suis tellement habitué aux voix françaises dans les épisodes de Dragon Ball que franchement, j'ai pas grand chose à leur dire. Quoi. Au contraire, j'ai vraiment kiffé. Même si parfois c'est effectivement très. Tu dis merde, la voix, ils ont pas été la chercher loin. Sur certains personnages un peu secondaires.
Ah, les ennemis, ouais.
Ouais, ou les ennemis, les personnages secondaires, voire plus que secondaires, où tu dis oui, c'est très caricatural et c'est pas folichon. Mais
c'est drôle, c'est ça qui est drôle.
Mais c'est drôle, c'est ça. C'est que du coup, c'est super drôle et en plus de ça, des fois, c'est vraiment adapté, quoi. Les blagues sont adaptées pour le public français, donc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des trucs cool dans la VF. Mais on en parlera dans un prochain, peut-être dans un prochain podcast. On fera un podcast un peu plus centré
sur la VF de Quel le survivant et des ennemis avec les voix de Tafiole.
C'est ça. Tout est possible. Bon, c'était cool. Merci à vous pour votre présence pour ce podcast.
J'ai peut-être juste oublié de préciser, puisqu'on parlait de VF, dans Plague Tale Innocence, il y a une VF qui est très, très, très bien.
Alors, heureusement qu'il y a une VF dans Plague Tale. Enfin, je pensais quand même.
Et bah figure-toi qu'il y a. Et bien, figure-toi qu'il y a beaucoup de commentaires sur, que j'ai vus sur Internet qui disaient « Ah, heureusement qu'il y a une VF sur la version française, parce que c'est pas, enfin pour un jeu français, parce qu'apparemment, c'est pas commun, j'ai l'impression. »
Oui, il y a eu des jeux...
C'est pas fou, c'est déjà arrivé où, effectivement, ils privilégient la version anglaise, bah, parce qu'elle va se vendre partout et ils vont pas se faire chier, ils vont sous-titrer, ça coûte moins cher. Mais bon, quand même, pour un jeu français...
Et là, le doublage est vraiment de qualité.
Ah, c'est super propre.
Ouais, puis l'immersion ne peut être que meilleure, on va pas se mentir.
C'est ça.
Clair. C'est clair.
Bon bah super. Merci à vous.
Merci à toi.
Bientôt pour ouh, c'est synchro, j'adore. On se retrouve bientôt pour un prochain The Podcast. En attendant, si vous souhaitez participer, si vous souhaitez parler d'un manga, d'un animé, d'un film, d'un jeu vidéo. Voilà, de tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux.
Et même et des jeux où il n'y a plus personne qui joue, comme
voilà, Black Sky, des trucs comme ça. N'hésitez pas. Il y a encore parfois des gens, deux ou trois.
Prochain podcast sur Anthem, du coup, c'est ça?
Non, on en a déjà parlé. Je crois que c'était
trop. On l'a déjà fait.
C'était déjà trop. À bientôt.
Ciao.